Merci d'être toujours branché sur RFI. Tout de suite, place à Décryptage, présenté par François Ballarin. Bonsoir François.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Décryptage. François Ballarin.
Depuis des mois, aux attaques terroristes sur son sol, le Pakistan répond en menant des opérations du côté afghan de sa frontière. Dernière en date, deux bombardements pakistanais sur les régions de Rost et Paktika, dans les zones tribales de l'est de l'Afghanistan. Depuis des mois, Islamabad reproche à Kaboul de protéger des groupes djihadistes et pourtant, à leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans l'assuraient, ils seraient les promoteurs d'un ordre régional apaisé. Deux ans et demi plus tard, les relations entre Kaboul et Islamabad sont plus que jamais tendues. Jusqu'où peut aller leur confrontation? Avec quelles conséquences, c'est le sujet de Décryptage ce soir.
Nous exhortons les talibans à s'assurer que des attaques terroristes ne sont pas lancées depuis le territoire afghan et nous exhortons le Pakistan à faire preuve de retenue et à s'assurer que des civils ne sont pas touchés dans leurs opérations de contre-terrorisme.
Bonsoir, Jean-Yves Berthaud.
Bonsoir.
Vous êtes ancien diplomate en Afghanistan et auteur de Déjeuner avec les talibans, paru aux éditions Saint-Simon. On vient d'entendre à l'instant Vedant Patel, le porte-parole du département d'État américain. Il appelait hier le Pakistan et les talibans à la retenue. Il résume plutôt bien la situation, la complexité de cette montée de tension entre Kaboul et Islamabad. La question qu'on se pose, c'est de savoir jusqu'où peut aller cette escalade. Est-ce que ça peut déboucher sur un conflit plus large ?
Bon, je ne pense pas que l'Afghanistan ait les moyens militaires d'engager un véritable conflit. Mais en revanche, il a une capacité de nuisance dont il a usé et abusé et qu'il n'hésitera pas à mettre en œuvre à nouveau dans l'avenir, dans un avenir proche, si le Pakistan continue à se montrer aussi peu préoccupé du sort de ces millions d'Afghans qu'il veut continuer à expulser de son territoire.
Et on va parler effectivement de ces 2 millions d'Afghans qui sont en cours d'expulsion ou déjà expulsés, qui sont déjà arrivés sur le sol afghan. On va en parler. De quelles conséquences parle le porte-parole du gouvernement taliban ? Ça peut passer par quoi ? Du terrorisme ?
Oui, bien sûr. Donc Au Pakistan, il y a un certain nombre de groupes terroristes qui opèrent. Ça n'est pas nouveau, ça ne vient pas d'être inventé par les talibans. Il y a toujours eu des attaques terroristes contre, par exemple, des mosquées chiites, qui étaient le fait de groupuscules ou de groupes plus conséquents sunnites, extrémistes, qui voulaient en découdre avec les chiites. Tout ça, ça remonte déjà à des années. Mais on a vu l'émergence, en particulier en 2023, d'une recrudescence d'attentats terroristes fomentés par des groupes, le principal étant le Terek et Taliban et Pakistan, dont on pense, à juste titre, qu'ils ont des bases arrière en Afghanistan. Alors pourquoi ont-ils ces bases arrière en Afghanistan ? Parce qu'il y a une sorte de devoir internationaliste de l'islam politique et militant et que certains éléments parmi ceux qui gouvernent l'Afghanistan aujourd'hui estiment devoir aider des mouvements dont le but politique se rapprocherait de leur propre. Mais il y a aussi une situation bilatérale qui est très complexe, qui remonte en fait, je ne dirais pas à la nuit des temps, parce qu'en fait c'est relativement récent, ça remonte à la partition de l'Inde. Au moment de la partition de l'Inde, évidemment, le Pakistan hérite des frontières qui avaient été dessinées de façon très arbitraire par...
Ça remonte à aux colonies britanniques.
Par le colonisateur britannique. Et donc la ligne Durand avait été tracée d'un trait de plume par un officier britannique qui s'appelait Durand.
Et la ligne Durand, c'est donc la frontière afghano-pakistanaise.
C'est ça.
2500 kilomètres.
Il se trouve que cette ligne Durand, qui se trouve dans la Northwest Frontier Province du Pakistan, c'est ainsi qu'on l'appelle maintenant, elle s'appelle Pashtun-Roi, parce que c'est la terre des Pashtuns. Et bien justement, cette ligne-là a coupé un peuple en deux, comme très souvent, ça a été le cas, et nous en avons été nous-mêmes les fauteurs au XIXe siècle, en Afrique et ailleurs. Et c'est ainsi. Donc évidemment, les frontières héritées de la décolonisation, c'est sacré, parce que si on les remet en cause, ça veut dire des guerres, etc. Et donc, au moment de l'indépendance, en 1948, personne ne souhaitait, sauf les Afghans, qui étaient concernés au premier chef, personne ne souhaitait faire bouger ces lignes. Mais le gouvernement afghan de l'époque, qui était une monarchie, n'a pas voulu reconnaître un Pakistan doté de telles frontières qui coupait son peuple, ce qu'il estimait être son peuple pachtoun, en deux. Et ça a mis plusieurs années avant qu'il y ait une reconnaissance véritable. Et c'est toujours resté cette question-là d'irrédentisme pachtoun et donc afghan. Parce que d'ailleurs, les Anglais, au XIXe siècle, qualifiaient le peuple en question de pathan ou pachtoun ou afghan. C'est en fait synonyme d'afghan. Donc c'est quelque chose qui est très... c'est une question qui est très sensible. Lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir il y a 25 ans, puisque c'est la deuxième fois qu'ils sont au pouvoir en Afghanistan, le Pakistan, qui avait pris le train en marche du mouvement Taleb, qui était un mouvement d'insurrection contre un pouvoir communiste, etc., après le retrait des Russes, à ce moment-là, le Pakistan a pensé qu'il allait pouvoir imposer son diktat et exiger la reconnaissance de cette frontière. Et même à ce moment-là, où en effet, les talibans se trouvaient dans une situation de suggestion vis-à-vis du Pakistan voisin, ils ont refusé de le faire. On me disait récemment, et c'est une chose qui n'est pas connue, que le chef suprême des talibans à l'époque a été convoqué en quelque sorte à Islamabad, et on lui a dit « bon, maintenant vous allez signer ». Et il a répondu un peu comme un modeste vieillard, alors que c'était un personnage tout puissant dans cette région. Il a dit « mais qui suis-je moi, puisque personne ne l'a fait avant, et qui suis-je pour signer ce papier ?» Et donc ils ont toujours refusé de le faire. Alors aujourd'hui, les Pakistanais ne sont pas dupes. Ils savent qu'ils ne pourront pas attendre de ce second pouvoir afghan installé depuis 2021, une reconnaissance de la ligne du rang. Mais c'est néanmoins quelque chose qui est fondamental, et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ensuite, il y a eu des événements du côté pakistanais qui expliquent cette volonté de se débarrasser de ces populations, en tout cas celles qui n'ont pas de papier.
On va y revenir. Oui. On va y revenir dans un instant, mais pour revenir au TTP, Terek et Taliban Pakistan, ce groupe qui est donc la bête noire d'Islamabad, ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement taliban a toujours nié abriter des groupes armés étrangers utilisant le sol afghan pour lancer des attaques contre ses voisins. Alors, c'est pas vraiment l'avis des Nations Unies qui affirme le contraire, tout comme l'Iran et d'autres pays d'Asie centrale. Comment expliquer le déni de Kaboul sur la question ?
Mais parce que, en fait, vous avez. Les talibans ne sont pas du tout un gouvernement comme les autres. Il faut savoir que autant de talibans, autant de partis politiques, je dirais, et de tendances politiques. Donc, au moment où ils ont pris le pouvoir, ils ont dû avoir beaucoup de conciliabules avant de se mettre d'accord pour une ligne politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce qui en est sorti, c'était en quelque sorte le plus petit dénominateur commun. Et ce sont les femmes et la condition féminine qui en ont fait les frais. Mais donc, ceux qui disent « mais nous n'avons pas déclenché cette affaire », il est très possible que cela, à moins que ils peuvent aussi mentir, je veux dire, le mensonge ne leur est pas inconnu. Mais il y a de fortes raisons de penser que ce ne soit pas ça, mais que ce soit plutôt tout simplement parce qu'en effet, ceux-là n'en ont pas donné l'ordre, mais que d'autres éléments au sein de ce mouvement extraordinairement disparate que sont les talibans, d'autres l'ont donné.
C'est-à-dire que le pouvoir central taliban à Kaboul ne maîtrise pas forcément ce qui se passe dans les zones tribales de l'est de l'Afghanistan ?
En Afghanistan, il n'y a jamais eu un pouvoir central suffisamment fort pour contrôler ce qui se passait dans les provinces.
Même les talibans ?
Et même les talibans. Alors aujourd'hui, ils ont un appareil sécuritaire qui est assez bien structuré, puissant. Donc ils y réussissent davantage que ça n'était le cas, par exemple, à l'époque communiste où il y avait une insurrection générale. Mais il y a presque toujours eu dans l'histoire de ce pays un climat insurrectionnel dans les provinces. Et donc... On peut faire sa petite cuisine, voilà, il y a des mouvements qui vont se créer dans une zone tribale, parce que ça reste un pays tribal, que les talibans le veuillent ou non, et donc le pouvoir central aura beau proclamer des décrets, etc., ils ne seront pas nécessairement appliqués, et éventuellement on fera le contraire. Je donne l'exemple, par exemple, de la fameuse éducation des filles. On pense que, voilà, les filles ne vont pas à l'école, point barre. Non, ça n'est pas comme ça. Il y a des endroits, il y a des régions où le gouverneur taliban, lui, veut que sa fille aille à l'école et toutes les filles vont à l'école. Il y a quand même un certain nombre de dérogations. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les activités souterraines, ces activités qui peuvent conduire à des actions terroristes. Et donc, cette dénégation... Évidemment, le pouvoir central ne peut pas ignorer totalement que... Mais ils ne sont pas maîtres de tout. C'est ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que le ministre de la Défense ou le plus haut responsable des services de renseignement peut ignorer que telle action a été commanditée contre une mosquée chiite, contre un poste de police, contre... Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit quand même d'un phénomène extrêmement grave, puisqu'il y a eu en 2023 presque une centaine d'attentats terroristes qui ont tué des centaines de policiers, des centaines de militaires, de civils.
Et comment expliquer que ça concorde avec le retour des talibans au pouvoir, parce qu'on pourrait voir la main justement du pouvoir central de Kaboul, mais visiblement ce n'est pas le cas.
De toute façon, avant le retour des talibans en août 2021, il y avait déjà des attentats terroristes.
Mais là, on parle de plus 500%, ce sont des chiffres énormes.
Une augmentation considérable. Il y a comme un déchaînement. Mais il faut dire aussi que ça, c'est sur fond de désordre et d'instabilité politique au Pakistan.
Et de crise économique aussi.
De crise économique. Il y a eu, évidemment, le drame national qu'ont été ces énormes inondations il y a deux ans. Ensuite, dans certaines régions, il y a une sécheresse qui a acculé des populations entières à la famine. Tout ça est un terreau aussi pour le terrorisme national. Ce terrorisme-là ne vient pas que de l'extérieur. Il est peut-être épaulé par moments par l'extérieur, et en particulier en Afghanistan. Mais on retrouve le même phénomène dans d'autres pays de la région, de toute façon. Je veux dire, le terrorisme pousse partout où il y a de la misère et où il y a du désespoir.
Alors justement, vous parlez de misère et de désespoir. La colère des autorités pakistanaises à l'égard de l'administration talibane semble avoir atteint son paroxysme. C'était en novembre dernier, lorsque le gouvernement a annoncé une politique pour expulser près de 2 millions d'Afghans résidant illégalement au Pakistan. C'est un moyen d'accroître la pression sur Kaboul. Est-ce que ça peut marcher ?
Ça gêne terriblement le gouvernement afghan, parce que les ressources, comme on le sait, l'Afghanistan des talibans est frappé de sanctions internationales, en particulier sur le plan financier, bancaire, etc. Et donc l'économie est sanctionnée, en plus c'est un pays enclavé. Pas d'accès à la mer. Le véritable accès à la mer, c'est le port de Karachi. Or, en cas de tension, évidemment, le Pakistan interdit le transit des denrées, des marchandises, et c'est catastrophique. Bon, ce qui fait fonctionner en grande partie l'économie afghane actuellement, ce sont les droits de douane. Donc, s'il n'y a pas de transport de marchandises et donc pas de recettes douanières, pour le gouvernement afghan, ce sont des représailles extrêmement dommageables à leur survie. Néanmoins, il faut noter qu'au moment où ont commencé, à partir d'octobre dernier, ces déplacements de population forcés, les talibans ont su, curieusement, on se serait attendu à ce qu'ils soient totalement dépassés, mais il y a eu un élan de solidarité et de l'organisation bon, relative. Ça n'est pas évidemment comme si ça avait été fait dans un pays occidental. Mais les gens qui arrivaient ont été pris en main, etc. Mais ça, le nombre de personnes déplacées, il s'agit de quelques centaines de milliers de personnes, alors qu'il y en a, disent les Pakistanais, 1 700 000. Donc le compte n'est pas encore.
Ça n'est que le début. Alors en tout cas, de nombreux Afghans expulsés du Pakistan se retrouvent notamment à Kaboul, livrés à eux-mêmes en plein hiver. Écoutez.
La situation est très mauvaise. Ils sont confrontés à de nombreux problèmes tels que le froid, l'absence de matériel de chauffage et de couverture et d'autres problèmes comme l'insécurité alimentaire.
Voilà le témoignage du responsable sur le terrain du Secours islamique d'Afghanistan recueilli par l'agence Associated Press. Cet afflux de réfugiés accroît, on le disait, la pression humanitaire dans un pays qui fait déjà face à une situation très compliquée, très complexe.
Oui, en effet. Mais néanmoins, moi j'ai été témoin, puisque je dirigeais l'ambassade de France à l'époque des talibans dans leur première version. On avait des situations de famine, etc. Et là, il y a quand même certaines ressources économiques très limitées. Mais on n'est pas dans une situation aussi épouvantable qu'on a pu connaître dans les années 98-99. C'est vraiment tragique. Enfin, je ne dirais pas pour autant que la situation est rose. Elle ne l'est pas du tout.
Ces Afghans sont présents au Pakistan depuis des décennies. Certains ont fui le pays lors de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. D'autres ont aussi fui le régime taliban un peu plus tard. Entre méconnaissance de leur pays d'origine et possible persécution une fois rentrés, on imagine qu'ils n'ont pas forcément envie de passer la frontière.
Non, il y en a seulement quelques dizaines de milliers qui sont partis de leur plein gré dès qu'on leur a dit qu'il fallait partir. Et les autres sont désespérés. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent au Pakistan, qui est un grand pays, avec une économie qui bat un peu de l'aile, mais qui est quand même celle d'un pays qui a des moyens industriels, etc. Ils arrivent souvent à trouver des moyens de subsistance, à faire un peu de troc, etc. quand ils débarquent, et ensuite ils font un peu leur trou. Tandis que dans un Afghanistan frappé à la fois d'une sorte d'opprobre de la communauté internationale, avec très peu d'entreprises qui fonctionnent, c'est très difficile de trouver sa place, surtout si on arrive en masse.
Est-ce que l'Afghanistan, qui est très isolé du reste du monde, est en train d'achever son isolement, cette fois-ci vis-à-vis de ses voisins ?
Alors, on ne peut pas dire qu'il soit dans un processus qui consisterait à achever son isolement, parce que bon, d'abord...
Pas de façon volontaire, forcément.
Sur le plan diplomatique, aucun pays n'a reconnu le régime. Alors que il y a 25 ans, quand ils étaient arrivés au pouvoir la première fois, il y avait quand même plusieurs pays qui les avaient reconnus, dont le Pakistan. Et même le Pakistan ne les a pas reconnus. Alors pourquoi ne les a-t-il pas reconnus ?
Qu'est-ce qui a changé ?
Mais parce que, comme il y a eu tout de suite cette polémique, à juste titre, sur la condition féminine, etc., le Pakistan ne voulait pas se montrer trop enthousiaste. En même temps, à l'époque, c'était Imran Khan, qui était celui qui est maintenant en prison, qui était Premier ministre, et lorsque les talibans sont arrivés à Kaboul, on a vu le Premier ministre pakistanais éructer de joie, d'une façon d'ailleurs assez indécente.
Ils auraient pu, les talibans, prendre le pouvoir à Kaboul en 2021 sans l'appui du Pakistan ?
Le Pakistan a certainement aidé, enfin les services de renseignement, certains milieux militaires ont aidé, mais ça faisait déjà un certain temps que les talibans grignotaient les provinces, et donc ils étaient déjà entrés un peu partout. C'était un peu un soufflet qui était retombé, l'Afghanistan des Américains. Ça ne fonctionnait pas.
Et vous pensez que les Pakistanais regrettent peut-être leur aide en termes de renseignement vis-à-vis des talibans aujourd'hui ?
Bon, de toute façon, ils ont des relais auprès des talibans parce que beaucoup d'entre eux sont des gens qui ont vécu au Pakistan, qui sont des obligés de certains services pakistanais. Donc les Pakistanais ne manquent pas de ressources humaines, de moyens de communication pour faire valoir leur vue. Mais c'est très complexe.
Merci, on l'a bien compris. Merci Jean-Yves Berthaud d'avoir accepté notre invitation dans Décryptage. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate en Afghanistan et auteur de Déjeuner avec les talibans, paru aux éditions Saint-Simon.